Vous êtes bien à l'écoute de Radio Orient, Wallis Glaise. Voici les titres. Emmanuel Macron réunit un conseil de défense pour évoquer un rapport sur les frères musulmans commandé à eux de fonctionnaires. En toile de fond, la crainte d'un entrisme islamiste, selon l'Élysée. Emmanuel Macron demande aujourd'hui des mesures au gouvernement d'ici début juin face à la gravité des faits exposés dans ce rapport. Les précisions dans ce journal. Et puis à l'occasion de son premier voyage au Liban depuis 8 ans, Mahmoud Abbas a évoqué la question de l'armement des milices palestiniennes avec le président Joseph Aoun. Il a assuré qu'il n'y aurait plus d'armes échappant au contrôle de l'État libanais. Et puis comme à chaque fin de magazine, nous parlerons évidemment des sports dans ce journal. Bienvenue dans votre magazine d'information. Nous commencerons par le point sur l'actualité. Enfin, nous développerons les dossiers du jour, comme chaque jour. On commence ce point sur l'actualité avec un document examiné au plus haut sommet de l'État. Le président de la République, Emmanuel Macron, réunit à l'Élysée un conseil de défense consacré à un rapport alarmiste sur l'influence des frères musulmans en France. Autour de la table, le Premier ministre François Bayrou, ainsi que les ministres chargés des affaires étrangères, des finances, ainsi que de l'éducation nationale. Le président français Emmanuel Macron a demandé, on l'a appris il y a quelques instants, a demandé des mesures au gouvernement d'ici début juin face à la gravité des faits exposés dans le rapport consacré aux frères musulmans. Et le Conseil français du culte musulman, en attendant d'avoir un accès complet au rapport, a fait part de sa vive inquiétude face aux risques de dérive et d'instrumentalisation des informations rendues publiques, notamment celles visant des lieux de culte, institutions, associations ou personnes présentées comme proches des frères musulmans. Et les réactions sont nombreuses suite à ce rapport. Le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, s'est exprimé dans la journée sur X au sujet aussi de la tenue de ce conseil. Je cite, l'islamophobie franchit un seuil, a assuré Jean-Luc Mélenchon sur X. Médecins sans frontières accuse Israël de fournir une aide insuffisante et de l'utiliser pour servir les objectifs militaires de ses forces, cherchant à éviter d'être accusé, je cite, de famine imposée à la population. Au Liban, 9 personnes ont été blessées dans un bombardement israélien ayant visé une localité du sud du pays. Israël a de son côté annoncé avoir éliminé un membre du Hezbollah malgré le cessez-le-feu. En vigueur. En Syrie, l'Union européenne a annoncé la levée de toutes les sanctions économiques imposées sous le régime de Bachar al-Assad en soutien au processus de transition mené par Hamad el-Sharaa. Cependant, l'Union européenne maintient des restrictions sur la vente d'armes et menace de réimposer des sanctions si les droits des minorités et la transition démocratique ne sont pas respectés. En Ukraine, 6 soldats ont été tués et plus de 10 blessés dans une frappe russe sur un terrain d'entraînement militaire, selon la garde nationale ukrainienne. Le département du Var, touché aujourd'hui par de violentes précipitations et des orages, entraînant des inondations qui ont coûté la vie à 3 personnes. En France, toujours, un non-lieu a été requis hier à l'encontre de 3 anciens membres du gouvernement, Édouard Philippe, Olivier Véran et Agnès Buzyn, dans l'enquête menée par la Cour de justice de la République sur la gestion de la crise sanitaire liée à la Covid-19. C'est la fin de votre point d'actualité. Place à présent aux principaux dossiers de votre magazine d'information. On commence avec le Conseil de défense qui s'est tenu aujourd'hui à l'Élysée, au centre de cette réunion, l'examen d'un rapport sur les frères musulmans commandé par le gouvernement.
À la une.
Le rapport examiné ce mercredi par le Conseil de défense souligne le caractère subversif du projet porté par les frères musulmans qui vise à obtenir progressivement des modifications des règles locales ou nationales comme la laïcité et l'égalité femmes-hommes. Selon les 2 hauts fonctionnaires auteurs de ce rapport, cette menace, même si elle repose sur le temps long et ne recourt pas à la violence, fait peser le risque d'une atteinte au tissu associatif et aux institutions républicaines et plus largement à la cohésion nationale. Le texte souligne que les frères musulmans en perte d'influence dans le monde arabo-musulman concentrent leur action sur l'Europe. L'ex-UOIF, qui s'appelle aujourd'hui Musulmans de France, est considéré comme une émanation des frères musulmans dans l'Hexagone, mais selon le rapport, aucun document récent ne démontre la volonté de Musulmans de France d'établir un État islamique en France ou d'y faire appliquer la charia. Le rapport évalue à 139 le nombre de lieux de culte affiliés à Musulmans de France, avec en plus 68 considérés comme proches de la fédération, répartis au total sur 55 départements. Cela représente 7% des 2800 lieux de culte musulmans répertoriés en France, avec une fréquentation moyenne de 91 000 fidèles le vendredi, même si le rapport précise qu'un fidèle fréquentant une mosquée de la mouvance n'en est pas forcément membre. Le rapport décrit le secteur éducatif comme une priorité de la branche française des frères musulmans et s'inquiète d'une rigorisation de la pratique religieuse avec une explosion du nombre de jeunes filles portant une abaya et l'augmentation massive et visible de petites filles portant le voile. Phénomène touchant des filles parfois âgées de 5 ou 6 ans. Pour les auteurs, une action de terrain résolue et de longue haleine semble nécessaire face à ce phénomène. Ils évoquent une sensibilisation de l'opinion publique accompagnée d'un discours laïque renouvelé et de signaux forts et positifs à destination de la communauté musulmane. Parmi ces signaux positifs, le rapport évoque la réglementation funéraire pour faciliter les carrés confessionnels, l'apprentissage de l'arabe à l'école qui gagnerait à être remis sur le métier ou encore la position française sur le conflit israélo-palestinien.
La réaction du ministre de l'Intérieur à présent en réponse à la question d'un sénateur.
Actu France.
Les pays les plus durs avec les frères musulmans, ce sont les pays musulmans, a estimé le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau ce mercredi après-midi. On l'écoute.
Il concerne l'islamisme. Je tiens à dire, du reste, qu'il faut séparer les menées islamistes d'une pratique de l'islam qui est compatible avec la République. Et j'observe du reste que les pays les plus durs avec les frères musulmans, ce ne sont pas les démocraties occidentales, ce sont les pays musulmans. Pour le dire, je voudrais ajouter qu'il y a une grande différence entre ce qu'on a appelé le séparatisme et l'entrisme. Le séparatisme prétend faire des petites contre-sociétés séparées de la communauté nationale, tandis que l'entrisme prétend modifier profondément nos propres règles pour l'ensemble de la communauté des citoyens. Vous l'avez dit vous-même, et je sais que vous y êtes intéressé, je connais vos travaux, le rapport de 2016, la PPL de 2018, je crois, et que, en réalité, sous couvert d'entrisme, d'un islamisme à bas bruit, en réalité, on a toujours la même matrice politique. C'est d'ailleurs les frères musulmans qui l'ont inventé à partir de 1928, et cela n'a pas bougé. La prééminence de la loi coranique sur la loi de la République, l'infériorisation notamment du statut de la femme, et enfin de l'antisémitisme voilé souvent par le biais et sous le prétexte de l'antisionisme. Il faut bien entendu prendre ce problème à bras-le-corps. Le rapport indique qu'il y a deux menaces. Une menace contre les intérêts fondamentaux, notamment les régimes républicains de nos institutions, mais aussi de la cohésion nationale. Ce qui devra être proposé dans les mois à venir, dans les semaines à venir, c'est une meilleure organisation de l'État, avec un vrai chef de filat en matière de renseignement et un parquet administratif au ministère de l'Intérieur pour, diligenter des dissolutions, diligenter des entraves administratives. Deux, les circuits financiers. C'est capital. Comment se fait-il qu'après la dissolution de Baraka City, les biens de Baraka City et les actifs soient allés se réfugier au Royaume-Uni? Comment se fait-il qu'après la dissolution du CCIF, les mêmes biens, les actifs, soient allés se réfugier en Belgique? Donc on a des trous dans la règle. Et enfin, une stratégie de sensibilisation informationnelle.
C'était Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, mercredi après-midi au Sénat.
Et sur ce rapport, les réactions sont nombreuses.
Interview.
Un conseil de défense se tient depuis ce mercredi matin à l'Élysée. Au centre de cette réunion, l'examen d'un rapport sur les frères musulmans commandé par le gouvernement. Nous écoutons la réaction de Galeb Benchirk, président de la Fondation de l'Islam de France, sur ce conseil de défense et de sécurité nationale.
Certes,
qu'il y a une préoccupation majeure concernant la cohésion nationale, mais cela reste encore non défini. On parle d'un islamisme à bas bruit, une sorte de radicalisation par le bas. Il est vrai que ce sont des minorités agissantes qui font l'histoire, mais ceci n'a rien à voir avec l'ensemble des citoyens musulmans qui vaquent à leurs occupations et qui tiennent à vivre d'une manière tranquille et digne. Maintenant, le Conseil de défense et de sécurité nationale se tient. On verra ce qui va advenir de ceci. Il est clair que l'influence 2.0 de ces imams autoproclamés l'espace cybernétique est à juguler et il faut voir comment le faire. Ça devient une affaire sérieuse. Le reste, quand il s'agit de mosquées affiliées à cette confrérie, encore faut-il la désigner, la connaître. Ce qui doit tomber sous le coup de la loi, et notamment la loi dite de consolidation des principes de la République, doit l'être. Le reste, il faut arrêter la surchauffe.
Et est-ce que vous avez appris quelque chose, vous, avec ces premiers éléments à notre disposition ?
Non, rien qu'une sorte de l'ordinaire. Nous savons que depuis maintenant plus de 3 décennies, depuis l'affaire dite de Creil, avec ces 2 fillettes à peine mobiles qu'on a emmitouflées pour aller à l'école, alors que le plus important était effectivement l'acquisition du savoir et de la connaissance, on a des incidents, parfois, hélas, des actes terroristes graves commis par des criminels se réclamant de la tradition religieuse islamique, et cela a été condamné par les plus hautes instances du culte musulman dans notre pays. Sinon, on est aussi dans un contexte, surtout sur certaines plateformes médiatiques et télévisées, qui montent en épingle tout ce qui a trait aux faits islamiques.
Une autre réaction, c'est celle de Samia Maktouf, avocate pénaliste au barreau de Paris, engagée auprès des victimes du terrorisme. Elle ne se dit pas surprise par ce rapport.
Je ne suis aucunement surprise de la teneur du contenu de ce rapport. Depuis plusieurs années, je suis intervenue depuis 2012, depuis les attentats de Mohamed Merah qui ont frappé la France. Je suis intervenue, ainsi que d'autres personnes qui travaillent sur cette question et des chercheurs, pour alerter sur la gravité de l'entrisme des frères musulmans. Les frères musulmans existent depuis 1928 et leur seul et unique but, c'est d'infiltrer, c'est mettre en place une stratégie de conquête idéologique et culturelle par étapes à l'effet d'infiltrer toutes les nappes, j'allais dire, de notre société.
C'était Samia Maktouf, avocate pénaliste au barreau de Paris, engagée auprès des victimes du terrorisme.
Et à l'occasion de son premier voyage au Liban depuis 8 ans, Mahmoud Abbas a évoqué la question de l'armement des milices palestiniennes. Avec le président Joseph Aoun, il a assuré qu'il n'y aurait plus d'armes échappant au contrôle de l'État libanais.
Radio Orient, focus.
La visite de Mahmoud Abbas ce mercredi au Liban, la première depuis 2017, est intervenue alors que Beyrouth cherche à étendre son autorité sur l'ensemble du territoire libanais, y compris dans les camps palestiniens qui abritent 220 000 réfugiés. Les présidents Joseph Aoun et Mahmoud Abbas se sont dit convaincus que l'ère des armes échappant à l'autorité de l'État libanais est révolue. Les deux dirigeants ont également décidé de former un comité libano-palestinien chargé de suivre la situation dans les camps et d'améliorer les conditions de vie des réfugiés dans le respect de la souveraineté libanaise et en conformité avec les lois libanaises. Ils ont réaffirmé aussi leur engagement à garantir aux réfugiés palestiniens au Liban des conditions de vie dignes, sans compromettre leur droit au retour. La sécurité dans les camps de réfugiés est assurée par des factions palestiniennes, comme le Fatah de Mahmoud Abbas, le Hamas et d'autres groupes armés. Il y a quelques jours, le président libanais, Joseph Aoun, a insisté sur le fait que seul l'État devait avoir le monopole des armes. L'armée libanaise a d'ailleurs déjà démantelé 6 camps d'entraînement d'organisations palestiniennes situés hors des camps de réfugiés. Les autorités libanaises se sont engagées à contrôler l'ensemble du territoire depuis le cessez-le-feu conclu en novembre dernier entre le Hezbollah et Israël.
Et puis enfin, comme vous l'attendez, chaque jour, place au sport d'Arthur Claude Savoie.
Radio Orient Sport.
Qui sera champion de la Ligue Europa entre Tottenham et Manchester United? La réponse ce soir à 21h au San Mamés de Bilbao. Les deux équipes sont actuellement 16e et 17e de la Première Ligue. Leur saison se joue donc ce soir. Pour Manchester, c'est une question d'honneur et de gagner un trophée dans une saison compliquée. Pour Tottenham, ce sera de remporter le premier trophée européen de son histoire. Une finale qui s'annonce tendue et à fort enjeu. Passons à la balle orange. Cette semaine est spéciale pour tous les fans de basket. En effet, c'est ce vendredi que débutent les phases finales de l'Euroleague. Le Final Four est un événement unique et marquant du basket européen. Cap sur ses enjeux avec Nils Sonimus qui sera présent à Abu Dhabi pour commenter ses phases finales sur Squeak TV.
Le Final Four, c'est les phases finales, l'apothéose de l'Euroleague. Ça se joue sur un week-end. Demi-finale le vendredi, finale le dimanche et petite finale aussi, mais qui a beaucoup moins d'intérêt. Et c'est un format qui est absolument fantastique pour le spectacle parce que sur un match, vous pouvez tout perdre, ce que vous avez construit sur la saison régulière. Tout peut se passer et les meilleurs joueurs d'Europe, les meilleures équipes d'Europe sont réunies pour s'affronter au plus haut niveau.
Parlons de la première demi-finale. Nous avons Monaco qui va affronter l'Olympiakos. C'est une belle revanche.
En effet, c'est le remake de la finale de 2023, la seule demi-finale que Monaco a disputée dans son histoire qui avait été perdue. Les Monégasques maintenant ont plus d'expérience, mais l'Olympiakos, ça reste le numéro 1 de la saison régulière, le grand favori de cette saison avec énormément de talent. Ça va être compliqué, mais comme je disais, c'est un Final Four, ça se joue sur un match, donc à partir de là, tout est possible.
Quel serait, vous, personnellement, votre finale de rêve pour ce Final Four?
Finale de rêve, forcément, moi j'ai envie de voir Monaco, j'ai envie de voir une équipe du championnat de France en finale, avec beaucoup de joueurs français dans l'effectif en finale, et même soulever le trophée après qui en face... Peu importe, j'ai envie de dire, il y a aussi un autre scénario, c'est celui où les deux équipes grecques seraient en finale, un Olympiakos, Panathinaikos. On connaît la rivalité entre ces deux clubs, que ce soit au basket, au foot, partout. Ça aussi, ce serait une sacrée affiche. Donc soit l'équipe française, l'équipe du championnat de France en finale, soit les deux grecs.
Merci Nils Onimus qui sera présent à Abu Dhabi pour commenter ses phases finales sur Squeak TV. C'est le moment de l'anecdote du jour. Savez-vous d'où vient la terre de Roland Garros? Sa couleur ocre et sa composition intriguent à chaque printemps, mais elle est composée de 5 éléments, de la brique pillée, du calcaire pillé, des résidus de houille, des cailloux concassés et de drain. C'est dans l'usine Supersol dans l'Oise, dans le village de Pontpoint, que la terre battue est fabriquée. À l'origine, l'apparition de la terre battue relève d'une question pratique. En effet, c'est les frères Renshaw, en 1880 à Cannes, qui auraient utilisé une poudre de terre cuite pour recouvrir les cours en gazon souffrant de la chaleur. Une idée qui est finalement devenue révolutionnaire des années après. Merci d'avoir écouté votre émission sport. C'était Arthur Claude Savoie. Bonne suite des programmes sur Radio Orient.
C'était Radio Orient Sport.